Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir Colossiens avec Philémon, parce qu'il y a vraiment une relation proche entre Éphésiens et Colosses, Éphèse et Colosses. Donc, sous l'enseignement de Paul, comment les hommes ont-ils été formés pour accomplir l'œuvre de Dieu? Quel genre d'homme est sorti de Éphèse, de l'école d'Éphèse? Lisons Colossiens 4, 7 à 18. Colossiens 4, 7 à 18.
Chapitre 4.
7 à 18. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hériapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à la Odyssée et Néphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lecture aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans les églises des Laodicéens et que vous lisez à votre tour celle qui vous arrivera de la Odyssée. Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Et on va aussi lire Philémon. Versets 1 à 7. 1 à 7. Philémon, versets 1 à 7. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans sa maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet trouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Donc, ici, la semaine passée, nous avons vu, notre pasteur Nicolas nous a présenté quel genre d'homme était Paul. À la suite de du fait qu'il allait partir d'Éphèse, il nous a présenté qu'est-ce qui animait Paul, qu'est-ce qu'il avait comme passion. Et avec cette idée-là, il a comme chargé ceux qui allaient rester à Éphèse de la tâche de l'œuvre. Et ainsi, on va voir dans Colossiens comment les hommes qui ont côtoyé Paul sont devenus. Comment ces hommes ont été formés de manière à devenir récipiendaires et être similaires aux caractéristiques de Paul. Ici, on va voir quatre hommes aujourd'hui. On ne passera pas tous les hommes qui ont été mentionnés. On va regarder vraiment des hommes qui ont été influencés à Éphèse et qui ont eu une relation avec Colosse. Donc, les quatre hommes qu'on va voir vont être Tichik, Onésime, et en relation avec Onésime, évidemment, on a Philémon, et on va conclure avec Épaphras. Ici, vraiment, l'idée, c'est de voir comment la formation que ces hommes ont eue leur a permis de développer des caractères, comme Pasteur Nicolas nous avait dit, qui sont importantes pour le cœur des gens qui sont dans le ministère. Vous allez remarquer que de ces hommes-là, pas tous sont anciens et pas tous sont des pasteurs. C'est bel et bien aussi des gens tels que nous et même certains qui ont été rachetés, comme on va voir par Onésime. Mais si on retourne rapidement dans Actes chapitre 20, on se rappelle qu'au verset 24, on voit Paul qui dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et en fait, contre ces hommes-là, c'est la définition de ce qu'ils vont émaner d'eux-mêmes. Ces quatre hommes-là vont faire du ministère et de l'œuvre qu'ils ont reçu de Dieu, quelque chose de primordial dans leur vie. Et oui, c'est une grâce qu'ils ont reçue de la part de Dieu de pouvoir le servir. Et ainsi, on se souviendra, Pasteur Nicolas avait très bien montré à quel point cette passion qui animait Paul va faire en sorte que ça va découler auprès de tous ceux qu'il va rencontrer. Donc, la première personne qu'on regarde, c'est Tichik au verset 7 de Colossiens chapitre 4. Tichik, le bien-aimé frère, le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Évidemment, ici, on a quatre hommes. J'ai décidé de prendre trois caractéristiques pour chaque homme. Les caractéristiques s'entrecoupent. Ça ne veut pas dire parce que je mentionne Tichik et de cette manière-là que les autres ne le sont pas. C'est juste un peu dans la structure de ce que je voulais faire que j'ai choisi trois caractéristiques pour chacune de ces hommes-là qui font en sorte qu'on va avoir 12 caractéristiques de comment des hommes sous et l'influence de Paul ont été formés. Je tiens à mentionner, je dis « homme » dans le sens large du terme humain, parce qu'on va voir aussi qu'il y avait dans la famille de Philémon au moins une femme de mentionner. Mais Tichik vient d'Asie Mineure. Donc, Tichik, il peut donc soit venir d'Éphèse ou de Colosse. On voit ça dans Actes chapitre 20, verset 4. Il est mentionné. Curieusement, Tichik est mentionné plusieurs fois dans la Bible. On le connaît pas spécialement, mais pourtant c'était quelqu'un de vraiment présent dans l'entourage de Paul. Et donc dans Actes chapitre 20 verset 4, j'ai pas mis la bonne référence.
Oui. Il avait pour l'accompagner jusqu'à la fin, le pasteur de Béré, de Pyrrhus, Aristarque. Et second des Thessaloniques, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tichik, et Trophime, originaire d'Asie.
OK, merci. Donc, c'est ça. Asie mineure, c'était l'Asie mineure, ça fait partie qui a Éphèse, Colosse et Laodicée, tout ça. Donc, plusieurs pensent sur le fait qu'il est peut-être d'Éphèse, mais rien n'est. Dans la Bible, très dogmatique par rapport à ça. Donc, Paul choisit Tichik en vue d'amener les lettres à Éphèse et ici à Colosse. Donc, la tâche que Paul confie à Tichik de propager les lettres aux églises est une tâche vraiment très importante. Donc ici, on voit que pour Paul, Tichik est vraiment une personne clé dans le fait qu'il amène ces nouvelles-là. Donc, à cette époque-là, la tâche de transmettre des lettres, des documents, était vraiment très importante. Et ici, Tichic devient donc un messager pour Paul. Il fait augure de vraiment de porte-parole des messages que Paul a envers les églises aux alentours. Et autant que, oui, Paul a écrit des choses, mais on comprend que dans des conversations, il n'y a pas tout écrit, mais Tichic devient vraiment ce porteur de messages par rapport à ce que Paul a dit. Donc, dans cette optique-là, il a les nouvelles que Paul a, il les communique, il faut qu'il soit prêt à répondre aux questions que les gens auraient. Il doit avoir cette même vision que Paul. Il doit vraiment comprendre la vision de Paul. Et Paul a compris ça en Tichic et il lui fait confiance d'être son porte-parole, son messager. De la même manière, Tichic devient la personne qui rapporte les nouvelles ou les questions que les gens auraient à propos de Paul. Donc, c'est vraiment un personnage de confiance. On ne voudrait pas qu'il retourne aux églises et qu'il leur annonce un message différent en disant que Paul m'a dit ça, et c'est complètement faux. On pourrait voir que ça pourrait avoir des valeurs un peu destructeurs si on offrait cette attestation à quelqu'un sans lui faire confiance. Et de la même manière, on ne voudrait pas qu'il rapporte des choses mauvaises sur des gens, les dirigeants des églises qui ne sont pas vrais auprès de Paul, au point de l'attrister. Donc vraiment, là, Tichic, même si on ne le connaît pas beaucoup, sa tâche était primordiale. Tichic, c'est pas clair dans la Bible, je ne crois pas qu'il est un ancien ou un passant. C'est quelqu'un comme n'importe qui d'entre nous. Et ainsi, Paul, on voit, il dit, je l'envoie exprès vers vous. Il a vraiment choisi Tichic pour cette tâche-là. Et Tichic va être mentionné dans plusieurs autres épîtres pour annoncer les messages que Paul lui a donnés. Et ainsi, Tichic est là et il faut qu'il console les gens. Donc, autant pour les bonnes nouvelles, mais aussi pour les mauvaises nouvelles. La manière de dire le message et quelle information donner, il doit être sensible aux gens. Et il est capable de faire ça parce qu'il console les cœurs des personnes. Ainsi, Tichic est décrit comme un bien-aimé frère, comme un fidèle ministre et un compagnon de service dans le Seigneur. Donc, un bien-aimé frère. Donc, premièrement, il faut croire en Jésus. Et Tichic fait partie de la famille de Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on ne fait pas partie de sa famille. Et Paul définit, et ça peut nous sembler banal le fait qu'il appelle bien-aimé frère, mais pour Paul, c'est important que la personne fasse partie de la famille de Dieu. Que la personne ait compris qu'il avait besoin de Jésus pour son salut. Et cela démontre aussi toute l'affection que Paul a envers Tichic. Bien-aimé. Donc, c'est une allocution que Paul aime bien utiliser et on sent l'affection que Paul a envers Tichic. Et évidemment, Tichic a vraiment bâti des liens avec Paul parce qu'il a été avec lui dans plusieurs de ses voyages. Il y a aussi une tournure possible, c'est que le Tichic a un caractère aimant. Donc, bien-aimé frère dans le sens qu'il est lui-même caractérisé comme étant quelqu'un d'aimant. Après ça, on voit qu'il est un fidèle ministre. Imaginez Tichic, il est fidèle sachant les distances qu'il a à parcourir. Ici, on croit que dans Colosse, Paul était à Rome, emprisonné à Rome. Donc, imaginez le trajet qu'il doit faire de Rome à Colosse pour amener les lettres et les messages de Paul. Et il doit revenir. Et donc, c'est quelqu'un de vraiment fidèle. Malgré la tâche ardue de voyagement, comme on voit parfois décrit dans les lettres de Paul, il est fidèle à cette tâche-là, continuellement. Donc, c'est ce caractère-là qui est aussi important, fidèle, au point qu'on peut lui faire confiance, que le message va arriver à bon port, selon la providence de Dieu. Il est aussi décrit comme un compagnon d'esclavage. Donc, Tichic a vraiment participé à l'œuvre de Dieu. Paul le voit vraiment comme son compagnon, en anglais on dit son buddy, dans le sens qu'il est là à côté de lui, il a une certaine intimité, et il a vécu la même intensité que Paul. On sait comment Paul, il semble être quelqu'un de vraiment intense. Donc, Paul allait ici, Tichy était là, Paul allait là, Tichy était là. Donc, il a parcouru, vécu probablement les mêmes dangers dans les plusieurs voyages qu'il a eu avec Paul. Il est aussi possiblement le délégué, fait partie de la délégation des 16 qui a été à Jérusalem, comme on avait vu quand Paul était allé à Jérusalem. Donc, ainsi, on voit Tichy, un bien-aimé frère, un fidèle ministre, un compagnon d'esclavage. Donc, à travers Tychique, on peut se demander, est-ce que nous sommes des personnes de confiance, des personnes qui sont fidèles à la tâche, et ainsi qu'on peut confier une tâche et s'en remettre. Pasteur Nicolas vient vous voir et vous dit, j'ai besoin de cette tâche soit accomplie, et vous êtes la personne en qui il met sa confiance, et il n'a plus besoin de s'en préoccuper, parce qu'il sait que le message va arriver à bon port. Un bien-aimé frère fidèle, un compagnon. Devenez compagnon de Pasteur Nicolas à la tâche. Dans Colossiens 4, verset 9, on lit, on va maintenant voir Onésime. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Donc Onésime, peut-être certains d'entre vous le connaissent, certains d'entre vous ne le connaissent pas trop bien. Onésime est vraiment un esclave. Donc un esclave dans le sens propre du terme, terre à terre. Et donc il était sous le service de Philémon. Et il travaillait donc pour Philémon, et on voit ça dans Philémon, dans tout le chapitre de Philémon. Et un aspect intéressant, c'est que Philémon est évidemment l'ami de Paul. Donc Onésime, pour quelque raison que ce soit, il décide qu'il en a assez d'être sous le service de Philémon, et il s'enfuit. Il est possible qu'en même temps, il ait volé des choses. La lettre semble donner une allusion à ça, mais c'est pas clair. Donc, Onésime prend la suite. Donc, une des raisons pourquoi on croit que, en tout cas, que je pense pour Rome, c'est que Paul est emprisonné à Rome, c'est que un esclave qui s'enfuit, sa vie maintenant est en danger. Donc, l'idée pour lui, c'est d'aller le plus loin possible. Et donc, Éphèse aurait été possible, mais aussi très proche, mais il voyage des distances et des distances, et il rencontre, par chance, Paul, par la providence de Dieu, il rencontre Paul, qui est maintenant emprisonné. Évidemment, Paul, comme on le connaît, il va présenter l'Évangile, il présente l'Évangile aux gens qu'il côtoie. Et probablement que là, à la suite de tout ça, il apprend que, Onésime vient de son ami Philémon. Et là, bien que Paul a une bonne relation avec Onésime, là, on voit le principe que Paul va demander à Onésime de retourner chez son maître. Ainsi, Onésime est décrit comme un fidèle frère, comme un enfant de Paul et un homme utile. Fidèle frère. Remarquons le changement qu'opère l'esprit quand il régénère un homme. D'esclave infidèle que Onésime était, et potentiellement un voleur, Onésime est maintenant fidèle. Il est maintenant en train de respecter toutes ses obligations. Et il prend soin de Paul. Et Paul voit à quel point cet homme a changé. Et maintenant, il peut lui aussi lui faire confiance. Il n'y a pas de doute que Onésime va se mettre à la tâche et va le faire avec cœur. Donc, lorsqu'il était sous la direction de Philémon, et on ne sait pas, dans la culture chrétienne, on croit que Philémon était de bon caractère et on va le voir plus tard. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi Onésime aurait pu décider de laisser Philémon. Et ce n'est pas nécessairement en lien de la manière qu'il était traité par son maître. Mais là, d'un homme qui faisait même les choses à moitié avec Philémon, maintenant on a Onésime qui est fidèle, fidèle à la tâche et tout ce que ça implique. Fidèle, on voit aussi dans le fait que Philémon, il est prêt à retourner, Onésime est prêt à retourner à Philémon. Et ça montre une certaine confiance en Dieu. Confiance, ne sachant pas qu'est-ce qui va lui arriver, il est, selon la lettre, prêt à retourner voir son maître. Donc, comme j'ai mentionné, un esclave qui s'enfuyait, c'était la mort, dans le cas pire extrême, qui était demandé de la part du maître, pour montrer évidemment l'exemple à tous les autres. Donc, c'est important ici que Philémon va devoir agir selon ce que la société demande, mais qu'est-ce que Dieu demande maintenant que Onésime est
son frère.
Encore plus fidèle. Évidemment, Onésime aussi, il est vu comme un enfant de Paul. Donc là, on peut comprendre toute l'affection que Paul a pour Onésime. Il est maintenant un enfant de Paul, un enfant spirituel. Et pour tout parent, vous pouvez comprendre l'attachement qu'il y a lorsqu'on a un enfant. Et Paul ici nous rappelle que c'est ce même attachement-là qu'il y a lorsque l'on amène quelqu'un à Dieu. Il devient notre enfant. Et ainsi, il y a une profonde amour que Paul porte envers Onésime, du fait qu'il est son père spirituel en Christ. Et Paul aurait voulu le garder. Il écrit dans la lettre, « J'aurais voulu le garder. » Mais Onésime n'étant pas sa propriété, si on pourrait dire ainsi, il doit le renvoyer. L'histoire ne nous dit pas, mais peut-être qu'à la suite, Philémon a permis à Onésime de retourner voir Paul. Qui sait? On saura ça au ciel. Mais ainsi, Onésime est un enfant de Paul. Et pour toute personne qui a amené quelqu'un à Dieu, vous savez à quel point il y a un attachement de prendre soin de ces personnes-là et de vouloir à leur bien-être. Et c'est la même caractéristique ici pour Onésime. Et finalement, Onésime est un homme utile. Donc, quel que soit le statut de la personne, dans la famille de Dieu, nous sommes tous utiles. À tout le moins, nous devrions être utiles. Dieu a permis à l'intérieur de nous que nous ayons les capacités de remplir la tâche qu'il nous a demandée. Donc, ici, sur la terre, notre identité n'est pas réservée à notre statut, mais vraiment à notre position que l'on a avec Jésus. Ainsi, Onésime devient un homme utile. Utile parce que maintenant, il peut glorifier Dieu avec les tâches qu'il fait. Parfois, un commentateur disait, ce qui fait la différence dans les bonnes œuvres que peut faire le monde avec les bonnes œuvres qu'on peut faire nous, c'est qu'ils ne le font pas pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que ces bonnes œuvres-là ne valent rien. Et ici, Onésime devient un homme utile. Il aurait pu servir Philémon toute sa vie en tant qu'esclave, pas dans la famille de Dieu, mais maintenant il peut devenir un esclave dans la famille de Dieu et servir Philémon pour la gloire de Dieu. Et il devient ainsi utile, un homme utile, outre le fait qu'il a vraiment été utile avec Paul durant son emprisonnement. Donc, Onésime, un fidèle frère, un enfant de Paul, un homme utile. Par inadvertance, nous, dans la hiérarchie de l'arbre généalogique chrétienne, on est des enfants de Paul. Et on doit se demander, est-ce que je suis utile? Est-ce que je suis utile à l'œuvre de Dieu? Est-ce que j'y suis engagé? Et est-ce que je le fais fidèlement? On va tout de suite aller à Philémon, étant donné qu'on est à Philémon chapitre verset 1. Philémon verset 1. Étant donné qu'on parle de Onésime, on peut déjà voir Philémon. Donc ici, on a Philémon. Philémon, il vient de Colosse. Et le fait que Paul lui adresse cette lettre à lui spécifiquement démontre vraiment qu'il y a un attachement très particulier dans la relation que les deux hommes ont l'un envers l'autre. Il y a quelques personnes comme ça que Paul adresse des lettres. On a Timothée, on a Tite, et ainsi de suite. Et ici, vous allez voir la relation que Paul a envers Philémon est vraiment qui ancre le fait que la lettre est écrite à lui et la demande qui lui est faite. On voit ici dans Philémon verset 2 qu'il y avait une église dans la maison de Philémon. Donc, probablement, pour pouvoir accueillir des gens, cet homme était probablement bien aisé. Donc, encore là, ce n'est pas clair. Est-ce qu'il était juste un hôte, dans le sens qu'il permettait que sa maison soit ouverte pour l'Église et il n'était pas nécessairement le dirigeant? Donc, je fais cette emphase-là pour vous montrer que beaucoup des gens autour de Paul étaient des gens comme nous. Des gens comme nous qui ne sont pas attitrés du titre de pasteur, d'ancien. C'est juste des gens qui vont et qui se sont mis et qui ont mis à cœur que l'œuvre de Dieu était importante. L'œuvre de Jésus était importante à accomplir. Donc, il ouvre sa maison et il a une église dans sa maison. Dernièrement, on parle de comment les cellules de croissance, en fin de compte, c'est des petites églises. Dans l'ancienne église où j'allais, on parlait que les cellules de croissance, c'est comme l'autre aile de l'église, c'est aussi important que la grande assemblée. Donc, c'est vraiment d'accueillir, on pourrait voir ça comme une cellule de croissance, comme on a Emmanuel, il accueille les gens pour ça. Aussi, il faut voir que dans ce temps-là, il n'y avait pas nécessairement une église dans un point de ralliement. Il y avait possiblement plusieurs églises dans différentes maisons et qui, en fin de compte, formaient l'église avec un grand E de Colosse. Donc, ici, c'est très probable que ce soit lui le dirigeant ou pas. Quoi qu'il en soit, on voit quand même que peut-être que c'est Archip, vu que Paul le caractérise plus comme un compagnon d'œuvre. Donc, selon la tradition chrétienne, Appia, que l'on voit qui est appelé au verset 2 à la sœur Appia, plusieurs pensent qu'il y a une possibilité que ça soit la femme de Philémon. Et donc, dans la manière que Paul l'adresse, la sœur Appia, et ainsi par cette entremise-là, plusieurs aussi pensent que Archip est leur fils. Donc ici, on a vraiment une famille qui est engagée au service de Dieu. Et on le voit parce que, encore une fois, Paul dit que Archip est un compagnon de combat. Donc, on sait comment Philémon est, on sait comment Archip est, c'est sûr que Appia, elle est engagée. Donc, on a vraiment une famille qui est engagée à l'œuvre de Dieu, pleinement. Donc, en ayant une église chez soi, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà accueilli une cellule de croissance ou quelque chose à la maison, mais il y a une certaine responsabilité, veuillez pas, lorsqu'on accueille, et on a de bien faire en sorte que les gens soient accueillis l'hospitalité et que permettre au déroulement que l'adoration se passe bien et tout ça. Donc ici, c'est vraiment une famille engagée. Et en fin de compte, tout le monde est à la tâche. Quand vous recevez la cellule de croissance, veux pas, tout le monde doit être à la tâche. Ma mère avait, quand on était à Rosemont, elle avait pendant une certaine année la cellule de croissance à la maison. Puis veux pas, nous les enfants, on était attelés à cela parce que ça fait partie de la tâche à faire. Oui, en tant qu'enfant, parfois, nous, on n'était pas nécessairement chaud à l'idée, mais veux pas, tranquillement, ça a inculqué, pour moi en tout cas, l'importance de cellules de croissance. Et ainsi, on voit que cette influence que Philémon et Aphia a envers leur fils a donné en sorte que Archip est un compagnon de combat avec Paul. Donc ici, plusieurs personnes au verset 19 pensent que Philémon a connu Dieu par l'entremise de Paul. C'est une hypothèse parce qu'il écrit pour ne pas te dire que tu te dois toi à moi, toi-même à moi. Selon la tournure de la face, ça pourrait dire que Philémon a obtenu l'évangile à travers Paul. Moi, j'aime à croire que c'est peut-être plus par l'entremise de Épaphras. Parce qu'on sait l'impact que Épaphras va avoir à propos de Colosse. Donc, quoi qu'il en soit, Paul, Épaphras, Philémon, Paul, Philémon. Je vais juste donner ce fait-là, juste pour montrer que l'Évangile a été propagé et a atteint Philémon. Donc, Philémon est décrit comme un compagnon d'œuvre. Un homme de foi et un homme rempli d'amour. Donc, un compagnon d'œuvre. Ici, Paul, vraiment, encore une fois, met l'emphase sur l'amitié qui existe entre Philémon et lui. C'est un peu comme à l'image de David et de Jonathan. C'est une relation où on se sent à l'aise de confronter, une relation où on se sent à l'aise de s'encourager. Une relation vraiment encore remplie de confiance, une relation d'intimité. Quand vous lisez la lettre de Philémon, vous pouvez réellement voir cet aspect-là où il y a comme un va-et-vient de cette relation qui a eu lieu avec Paul et Philémon. Et ça, c'est important parce que c'est crucial parce que Paul aurait peut-être pas eu le courage d'écrire à Philémon s'il n'y avait pas eu cette relation aussi intime. Et les deux ont vraiment côtoyé assez pour que Paul, lui, est prêt à lui venir auprès de lui en tant qu'ami avant qu'en tant qu'apôtre. Et on voit ça dans Philémon, il lui dit, « Moi, là, je t'écris cette lettre-là, je pourrais te dire avec l'autorité que j'ai fait ça, c'est tout. » On n'en parle plus. Mais à cause de l'amitié qu'on a, je viens vers toi vraiment en tant qu'ami pour te demander, te supplier de pardonner sans reproche, de donner aucun reproche à Onésime qui est maintenant mon enfant. Donc, ils sont vraiment des compagnons. Donc, il est très probable qu'ils se sont côtoyés à Éphèse. Et pendant ce temps qu'ils ont eu, ça a été vraiment un moment pour eux de pouvoir s'attacher ensemble. Au verset 5 de Philémon, on va voir qu'il est un homme de foi. Donc, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus. Pour Philémon, Jésus avant tout. Jésus avant tout. Notons que sa foi, là, elle est tellement réel, tellement vrai, que ça se propage jusqu'aux oreilles de Paul. La foi de Philémon est évident. Elle est évidente pour ceux qui sont autour de lui. C'est cette authenticité qui fait en sorte que sa renommée parvient jusqu'à Paul. Paul connaissait Philémon, mais imaginez d'entendre, après avoir quitté votre ami, que les gens disent que c'est un homme de foi. Quel encouragement pour Paul de voir comment son ami persévère dans la foi. Et cette foi-là se distingue par une volonté de vivre pour Jésus, malgré les conventions sociales. Je mentionne ça parce que c'est pour cette raison-là que Paul écrit à Philémon. Il a entendu comment il était et comment sa foi faisait en sorte qu'il vivait vraiment la vie chrétienne et non la vie de ce monde. Et donc, il est en mesure de lui dire, je remercie Dieu pour ça, pour cette foi-là qui fait en sorte que tu n'es pas ancré dans ton identité de ce monde, mais vraiment dans ton identité avec Christ. Donc, tu ne suis pas les standards du monde et tu es prêt à sacrifier à la cause de Jésus pour l'héritage qui t'a été donné. Ainsi, il comprend le message de l'Évangile. Il comprend que Jésus a été puni pour son péché. Le péché va être puni. On l'a vu, il faut le comprendre, le péché de tous va être puni. Certains, ils vont être punis en enfer, mais d'autres vont être punis en Jésus. Et le fait de cette réalité de savoir que Jésus a pris toute la punition de notre faute sur la croix fait en sorte qu'on vit une vie différente. Et Philémon a compris ça, que sur la croix, Jésus a pris la punition de ses péchés. Si le péché amène en enfer et que la punition est une éternité sans Dieu, dans les images où il y a des grattements de dents et des pleurs, imaginez la douleur qu'a expérimenté Jésus à la croix pour chacun de nous. Et ainsi, cette foi de Philémon fait en sorte qu'il ne peut pas être un homme qui vit une vie comme celle du monde, mais il doit être caractérisé par quelqu'un qui vit différemment. Et c'est cette confiance-là en Jésus qui fait qu'il vit les événements de la vie différemment que la plupart du monde. Donc là, on a Onésime qui est parti. Onésime va revenir. Paul est en train de lui dire, « Je sais que tu es un homme de foi et tu ne pourras pas agir selon les standards de ce monde, mais selon ta connaissance que tu y as de ton avec Jésus. » Et donc, étant un homme de foi, on voit son intimité qu'il a avec Jésus. Ainsi, on voit qu'il est, au verset 5, un homme d'amour. « Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. » Encore là, Paul utilise ce qu'il a entendu pour démontrer à Philémon qu'il n'aura pas le choix de répondre aux attentes qu'il déjà exerce. C'est pas comme s'il n'exerce pas de l'amour envers les gens, c'est un homme d'amour. Et il va falloir qu'il exerce aussi envers Onésime. Donc, et cette caractéristique-là de l'amour, c'est une conséquence directe de la foi de Philémon. Donc, si on a la foi, l'amour vient automatiquement, directement. Donc, elle est manifestée pour les frères et les sœurs. Et, entre autres, cet amour fait en sorte que le cœur des saints a été tranquillisé, est tranquillisé. C'est comme d'être autour de quelqu'un qui procure la paix. Quelqu'un qui encourage à persévérer dans la foi, qui donne l'espérance de marcher avec Dieu. Quelqu'un qui va essayer de préserver l'unité. Vraiment, autour de Philémon, nos cœurs sont tranquilles, parce qu'il prend soin de chacun. Donc, Philémon est entièrement engagé envers les frères et les sœurs de son entourage, et il les estime tellement qu'il est prêt à donner sa vie pour eux. Et ainsi, quand Paul écrit cette lettre-là, quoi qu'il semble le supplier, on est comme prêt à assumer de la conclusion de ce qui va arriver. C'est que bel et bien, Philémon va pardonner Onésime et il va lui être un esclave à nouveau utile. Parce que maintenant, ils sont frères. Donc, pour nous, ici, lorsqu'on regarde Philémon, assurons-nous que notre foi est vraiment réelle en Jésus et que cette foi-là, elle fait en sorte qu'elle est caractérisée par l'amour. Et est-ce que ces deux choses-là se propagent d'église en église, d'assemblée en assemblée? Est-ce que c'est la réputation à tout le moins que vous avez à Emmanuel? Finalement, on va voir Épaphras. Donc, si on retourne dans Colossiens chapitre 4, verset 12, on va voir Épaphras. Épaphras, qui est dévote, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous et pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hériapolis. Épaphras vient de Colosse. C'est un païen de la région converti au christianisme. Et il est très probable qu'il a été enseigné par Paul. Et vraiment, là, quand on regarde Épaphras, on a vraiment une correspondance avec comment Paul agit. Fait que Épaphras est très semblable dans sa démarche par rapport à ce que Paul fait. Et donc, on sait que Épaphras a joué un rôle clé dans la vie de Colosse. On voit ça dans Colosse 1, 6 à 7. Donc, si vous voulez regarder, dans Colosse 1, 6 à 7, on voit qu'il a été là pour l'évangélisation et pour la formation à Colosse. Donc, vraiment, un homme qui a joué un rôle clé dans les événements, dans la formation de l'église d'Épaphras. Et ainsi, Épaphras est décrit comme un esclave de Jésus-Christ, comme un homme actif dans la prière et comme un témoin acharné. Esclave de Jésus-Christ. Ici, bien que ce terme peut nous sembler péjoratif, lorsque Paul utilise le terme esclave de Jésus-Christ, il est en train de reconnaître tout le caractère de cette personne engagé au service de Dieu. Lorsque Paul utilise le terme esclave de Jésus-Christ, il n'a aucun doute que cette personne-là est à 100% engagée à l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne dirait pas ça à n'importe qui ou à n'importe quel chrétien. C'est vraiment quelqu'un qui a donné sa vie complètement à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas voir ce terme-là comme péjoratif, c'est vraiment comme un genre de saut que Paul met, que Épaphras, là, il sacrifie tout pour l'œuvre de Christ. Il est l'esclave de Jésus-Christ. Et on voit tout de suite Paul qui se définit comme esclave de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, cette idée-là de s'engager, parce qu'il y a des gens qui vont s'engager à 100% de leur temps pour l'œuvre de Jésus. Et il faut qu'ils deviennent et qu'ils soient des esclaves de Jésus-Christ. Toute leur vie consacrée à l'œuvre de Jésus. Donc, aucun doute pour Paul que Épaphras est authentique dans le fait de ses actions pour Jésus. Et on sait qu'en effet, Paul lui-même est en prison. Donc, Épaphras lui-même aussi va être en prison. On voit ça dans Philémon 1, 23. Donc, il a vraiment tout consacré sa vie à Dieu. Après ça, c'est un homme actif dans la prière. Et par ce fait-là, il démontre une dépendance complète en Dieu. Pour que les Colossiens puissent maturer dans leur foi, il va falloir l'intervention de Dieu. Oui, il a agi. Oui, il a semé. Oui, il a arrosé. Mais pour faire grandir la tente, il faut l'intervention de Dieu. Et ici, Épaphras est un homme qui est complètement engagé dans la prière. Il est actif. Il est à 100% dans son engagement envers les Colossiens et aux alentours, à un tel point qu'il lutte pour eux dans la prière. On voit ça ici parce que dans le verset 13, ça dit qu'il a une grande sollicitude. Et vraiment, le mot, c'est un mot de douleur. C'est qu'il a vraiment de la douleur, de vraiment ça pèse sur lui le caractère spirituel des Colossiens. Donc, on lit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, il veut que les Colosses comprennent les vérités qu'ils ont reçues, réellement qu'ils sont convaincus de ces vérités-là, et à cause qu'ils sont vraiment convaincus de ces vérités-là, ils sont en mesure de vivre selon la volonté de Dieu. Et là, ça, c'est vraiment important. Et pour lui, il n'y a pas de plus importante chose à lutter pour Dieu pour ça. Oui, on veut prier Dieu pour la guérison des gens. Mais notre première réaction devrait être de lutter que leur foi ne défaille pas. Qu'ils persévèrent dans l'espérance qu'ils ont. Qu'ils ont le courage de vivre pour Dieu. Et de lutter Dieu avec Dieu à la prière pour ça. De lui demander, de lui supplier que le caractère des hommes et des femmes soit dans une maturité qui fait en sorte qu'ils vivent selon la volonté de Dieu. Et Épaphras est un témoin acharné. Un témoin acharné. Il va aller de Colosse, il va aller à Laodicée, à Hérapolis. C'est vraiment, il continue d'annoncer l'Évangile. Un témoin acharné de son désir de voir des âmes venir à Dieu. Il propage la bonne nouvelle. Encore là, on voit Paul qui allait de lieu en lieu propager la bonne nouvelle. Et ainsi, il manifeste un dévouement sans faille au bien-être spirituel des autres qui n'ont pas encore connu Jésus. Il travaille sans relâche. Et encore là, avec le terme qu'on avait vu, sans relâche au point que peut-être que physiquement, il a des douleurs ou émotionnellement, il a des douleurs. C'est vraiment un témoin qui est à 100% acharné dans l'œuvre de Dieu. Ainsi, pour nous, quand on regarde Épaphras, on pourrait déjà juste se demander, est-ce que je suis acharné dans la prière pour l'Église Emmanuel, pour les brebis de l'Église Emmanuel, pour les membres de l'Église Emmanuel, afin que nous soyons tous capables de comprendre les vérités qui nous ont été données et de les vivre. De les vivre selon la volonté de Dieu. En conclusion, on va regarder ce que Paul dit à Archip au verset 17 dans Colosse chapitre 4, chapitre 4, verset 17. Et dit à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Ainsi, après qu'on ait vu et que Paul ait décrit ces hommes-là, il dit à Archip, tu vois comment ces hommes sont, toi aussi continue à la tâche de la même manière. Tu vois comment Tychique, il est un fidèle. Je vais revenir à mes pages perdues. Un bien-aimé frère, un fidèle ministre, un compagnon d'esclavage. Tu vois comment Onésime est, un fidèle frère, un enfant de moi, un homme utile. Tu vois comment Philémon est un compagnon d'œuvre, un homme de foi, un homme d'amour. Tu vois comment Épaphras est un esclave de Jésus-Christ, actif dans la prière, un témoin acharné. Toi aussi, nous aussi, vous aussi, prenons garde au ministère que nous avons reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Prions. Père, je te remercie pour la grâce que tu nous fais d'être tes enfants, la grâce que tu nous fais de pouvoir participer à ton œuvre. Donne-nous par ton esprit la force de vouloir être des hommes et des femmes qui sont participants de ton œuvre, qui veulent bien remplir la tâche que tu nous as donnée à tous et à chacun. Donne-nous de s'attendre, de dépendre de toi pour avoir la force de l'accomplir et de lutter dans la prière pour nos frères et nos sœurs. En ton nom, Amen. Amen.